Bonjour, bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du jeudi 12 avril 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour.
En forme?
Oui.
Oui, vous avez fermé la lumière de votre côté. Vous travaillez dans le noir.
Voilà.
C'est vous dans le noir,
c'est
Mathieu?
C'est moi dans le noir.
Pourquoi?
Pour varier mon environnement de travail, okay. Je pense, je dirais.
Mais je vous vois quand même. Et j'aperçois aussi une plante tout près de vous.
Voilà. Je vais augmenter ma lumière. Peut-être que vous allez mieux me voir.
Oui.
Je m'ajuste.
OK. Alors, est-ce que vous avez préparé votre chronique?
Oui. Les éphémérides d'aujourd'hui. Nous sommes la journée, entre autres, internationale du vol spatial habité. Et nous sommes aussi la journée mondiale d'action sur les dépenses militaires. La journée du vol spatial habité, on y reviendra un peu plus tard, c'est qu'en 1961, Yuri Gagarin, à 27 ans, est le premier homme à voyager en orbite. Il revient après 90 minutes et un tour de la Terre. C'est pour ça qu'on en a fait aujourd'hui la journée internationale du vol habité. Mais revenons en 1864.
Revenons sur la Terre,
c'est exact. Considéré comme un massacre, la bataille, durant la guerre de sécession, la bataille de Fort Pillow fait plusieurs morts de soldats noirs, ce qui fait qu'entre autres que le Nord accroît son soutien à la guerre. En 1893, c'est l'inauguration de l'Olympia, salle de Paris, salle de spectacle parisienne.
Mythique.
Exact. En 1917, lors de la Première Guerre mondiale, les forces canadiennes prennent la crête de Vimy. En 1917, le droit de vote est accordé aux Ontariennes, un 12 avril. En 1954, un 12 avril, l'enregistrement de Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. Première chanson de rock'n'roll à atteindre la première place du Billboard Chart, qui est en fait un hymne au rock'n'roll. 1960 pour les amateurs de hockey. En finale contre Toronto, Maurice Richard marque son dernier but pour le Canadien de Montréal qui gagnera la Coupe Stanley.
C'était le bon temps, comme dirait l'autre.
En 1961, le premier vol habité par Yuri Alexeïevitch Gagarin. En 1980, Terry Fox entame son marathon de l'espoir. En 1981, premier vol d'une navette spatiale américaine, la Columbia. En 1996, toujours un 12 avril, Yahoo, deux ans après sa naissance, réalise son offre publique d'entrée en bourse. 1997, la cathédrale de Turin est dévastée par un important incendie, mais les pompiers réussissent à sauver le Saint-Suaire des flammes. Et Hugo Chavez, en 2002, président du Venezuela, est brièvement chassé du pouvoir lors d'un coup d'État. Et pour ce qui est des naissances, Herbie Hancock, compositeur américain, né en 1940. 1941, Daniel Pilon, acteur québécois. 1947, David Letterman, animateur, humoriste et producteur de télévision américaine.
Je ne sais pas s'il a coupé sa barbe.
Je ne sais pas.
Parce qu'aux dernières nouvelles, là, c'était quand même assez long.
C'est vrai?
Impressionnant.
Et pour ce qui est des décès du 12 avril, en 1898, Elzéar Alexandre Taschereau, cardinal canadien et archevêque de Québec, est décédé un 12 avril. Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis, est décédé un 12 avril 1945. Josephine Baker, en 1975, est décédée. On se souvient qu'elle est chanteuse d'origine américaine, mais chanteuse française. Et Michel Chartrand, syndicaliste et homme politique québécois, qui était né, lui, un 20 décembre 1916, nous a quitté un 12 avril 2010. Pardon.
Personnage inoubliable.
Exact. C'est tout.
Merci beaucoup. À la une de la presse, ce qu'a fait Azzedine Soufiane, qu'on voit tout sourire, était héroïque. Les images de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec ne pourront être diffusées, a tranché le juge François Huot. Mais des journalistes et membres du public ont pu les voir hier au tribunal. Entre l'acharnement du tireur et la panique des fidèles, une scène saisissante, une séquence d'une seconde où Azzedine Soufiane tente d'arrêter le tireur et y parvient presque. Alimentation, le tiers des épices ne sont pas conformes. L'éditorial de François Cardinal, ne pas lui faire confiance alors qu'on voit une image de Monsieur Facebook, Mark Zuckerberg. Pause repas goûteur à domicile. Sport, Heidi Levasseur, traverser l'Atlantique à la nage. Gabriel Bellan dans la presse d'aujourd'hui. La salle d'audience du Palais de justice de Québec était silencieuse. Les femmes et les hommes qui pleuraient dans le public le faisaient en silence. Devant eux, les images de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec défilaient. Les 9 vidéos captées par des caméras de surveillance ont été diffusées hier dans le cadre des plaidoiries sur la peine à imposer. Le juge François Huot de la Cour supérieure a décidé que les médias ne pourraient pas les reprendre. Les images ne seront vraisemblablement jamais plus montrées. Que voit-on sur ces enregistrements? Un tireur, froid et méthodique. Il agit seul, recharge son pistolet 4 fois et tire 48 balles en l'espace de 100 secondes. On voit 44 fidèles pris de panique, enfermés dans la mosquée, sonnés par la violence inouïe du moment. Mais on voit aussi au moins un acte de bravoure. Le geste d'Azedine Soufiane, un épicier de 57 ans, avait déjà été raconté par certains témoins. Les images l'attestent, l'homme est mort en héros. Les images montrent qu'après avoir abattu 2 hommes devant la mosquée, Ibrahima Barry et Mamadou Tanou Barry, Bissonnette pénètre à l'intérieur. Il est très exactement 19h54min46s. Rapidement, il commence à décharger son pistolet sur les fidèles affolés dans la salle de prière. La plupart se cachent dans le mihrab, petite niche où ils s'entassent. De sa position, le tueur est protégé par un cadre de porte. Il décide de recharger son arme pour une deuxième fois. C'est à ce moment que M. Soufiane choisit de se ruer sur le tireur. Il tente de convaincre d'autres fidèles de venir avec lui. Dans le feu de l'action, le père de 3 enfants décide finalement de charger seul. Sur les images, on le voit parfaitement sauter sur Bissonnette pour l'empoigner. L'épicier, qui est beaucoup plus costaud que le tireur, passe un cheveu de l'attraper par le collet. Mais Bissonnette se dégage. Le Centre culturel islamique de Québec aimerait que M. Soufiane soit décoré pour son geste. La médaille pour bravoure de la gouverneure générale peut être décernée de manière posthume. Mohamed Labidi estime qu'au moins 2 survivants pourraient aussi être décorés, soit Eman Derbali, que l'attentat a laissé paraplégique, et Saïd Akjour, qui a couru après Bissonnette quand celui-ci a pris la fuite. La chronique d'Yves Boisvert intitulée « La décence de ne pas tout montrer ». La justice doit être rendue en public, mais ça ne veut pas dire qu'absolument tout ce qui est présenté en cour peut être diffusé sans restriction. En fait, on a parfois l'obligation morale de ne pas montrer. Il y avait de bons motifs d'interdire la diffusion des images du massacre de la mosquée de Québec et sans surprise, le juge François Huot les a retenus. Mes collègues et mes patrons ne seront pas tous d'accord avec moi, mais dans ce cas, je trouvais que les médias défendaient de bons principes avec une mauvaise cause. On est ici clairement dans un cas limite qui justifie une exception. Le crime pour lequel Alexandre Bissonnette s'est avoué coupable n'est pas uniquement seulement par son ampleur, n'est pas unique seulement par son ampleur. Il l'est par sa nature. Qu'on le qualifie ou non légalement d'acte terroriste, ce crime en a toutes les composantes. Une attaque meurtrière ciblée contre une minorité religieuse pour semer la terreur. Il n'avait pas toutes les caractéristiques ou la préméditation idéologique d'autres attentats, de toute évidence. Mais le résultat net est le même. Une tuerie de masse sans précédent au Canada, contre une minorité religieuse, avec toutes les apparences d'une idéologie haineuse, même si éventuellement on découvre que c'était le fruit d'un délire. Et pas n'importe laquelle. Celle qui est la cible de toutes les méfiances. Celle dont se réclament aussi les fanatiques de l'islam violent. C'est de l'aveuglement, de l'ignorance crasse ou de la pure hypocrisie que de prétendre traiter ce crime comme une simple, entre guillemets, affaire de meurtre multiple. C'est ignorer sciemment l'effet des images dans le contexte social-politique et même géopolitique actuel, sous-estimer l'impact de leur diffusion instantanée et mondiale. Le risque d'effet pervers de la diffusion d'images de l'acte est réel. Ce n'est pas pure conjecture que d'affirmer qu'elles peuvent être utilisées pour glorifier le tueur et inspirer des gens désespérés, comme l'a dit le juge. Bissonnette a lui-même cherché des vidéos de tueries selon la preuve. À l'inverse, elles peuvent servir d'instruments de propagande terroriste islamiste chez les affiliés ou sympathisants d'Al-Qaïda et autres Daesh. Cela aussi est documenté. Oui, disent les médias, mais le principe sacré de la publicité des pièces à conviction dans un procès, j'ai passé assez de temps dans les palais de justice à le faire valoir, j'en connais l'importance. Mais aucun principe n'est absolu, écrit Yves Boisvert. Le juge a toujours discrétion pour restreindre ce principe dans l'intérêt de la justice ou dans l'intérêt général. C'est ce qu'il a fait hier. Les familles qui décideront de demeurer dans l'île de Montréal en achetant une propriété seront désormais admissibles à une aide pouvant aller jusqu'à 15 000 $. La mairesse Valérie Plante a annoncé la refonte du programme d'accès qui offrira des subventions plus généreuses afin d'encourager les Montréalais à ne pas partir pour la banlieue. Les familles seront particulièrement encouragées à s'établir au centre-ville. Le nouveau programme a reçu un bon accueil de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Une telle majoration était devenue nécessaire avec la hausse constante du prix des propriétés à Montréal depuis près d'une vingtaine d'années, rendant l'ancien programme peu accessible et peu efficace, a réagi l'organisation. L'association souligne que le taux de propriété est très faible à Montréal, où à peine 37 % des ménages montréalais sont propriétaires, et ce, alors que la moyenne nationale est de 61 %. Afrique du Sud, des milliers de Sud-Africains ont rendu un nouvel hommage populaire et ému à l'icône controversée de la lutte anti-apartheid Winnie Mandela dans un stade du township de Soweto, où, au contraire de la plupart de ses compagnons de lutte, la « mère de la nation » entre guillemets avait choisi de continuer à vivre. Incarnation avec son ex-mari Nelson Mandela de la lutte pour la libération de la majorité noire du pays contre la ségrégation raciale, Winnie Madikizela Mandela est morte le 2 avril à l'âge de 81 ans, à la suite d'une longue maladie. La veuve de Nelson Mandela, Graça Machel, a assisté à l'événement en l'honneur de Winnie Mandela. Au milieu des champs et d'un océan de drapeaux noirs, verts et jaunes du Congrès national africain, proches, militants et dirigeants politiques se sont succédés à la tribune du stade pour célébrer la mémoire de Winnie Mandela. L'Afrique du Sud a décrété un deuil national jusqu'à samedi, date des funérailles officielles de Winnie Mandela. Dans son concert de louanges, il n'a pas été question de l'autre Winnie, celle qui s'est attirée la réprobation de certains de ses compagnons de route pour ses appels à la violence et les méthodes musclées de sa garde rapprochée. Et oui, parlons météo, un imposant système dépressionnaire se dirige vers le Québec et pourrait entraîner d'importantes précipitations au cours de la fin de semaine. Selon Environnement Canada, on doit s'attendre à des averses de pluie dès demain, suivies de possibilités de grisilles, de pluie verglaçante et encore de pluie en fin de journée dimanche. Dimanche 15 avril, c'est, petit aparté, l'anniversaire de mon filleul. Comme les températures devraient se maintenir près de zéro, la nature des précipitations demeure variable. Les régions situées à l'ouest, l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu'au nord du fleuve Saint-Laurent, pourraient recevoir de bonnes bordées de neige, alors qu'on parle plutôt de pluie verglaçante ou de pluie dans le sud de la province. Il n'est pas exclu que des flocons tombent aussi dans la région de Montréal et dans le sud de la province, puisqu'on s'attend à un cocktail de précipitations. Une chose est sûre, les automobilistes vont devoir être prudents sur les routes.
« Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Ouin, ouin, ouin. Je sens ta main se poser sur la mienne. De joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Toujours plaisant d'entendre cela. Jeanne Chéral et Albin de la Simone, ces mots stupides.
En une du Devoir, un tableau, Saint-Jérôme, 1779, huile sur toile de Jacques-Louis David, Paris 1748, Bruxelles 1825. L'œuvre a fait l'objet d'une succession de ventes et d'héritages en France et aux États-Unis avant d'être offerte en 1922 à la Basilique Notre-Dame de Québec. Le MBAC vend un Chagall pour acquérir cette toile que deux autres musées de Montréal et de Québec convoitaient. Alors, le titre à propos de cette nouvelle, un Chagall contre un David et deux églises, le MBAC, vend-il trop vite la Tour Eiffel pour un tableau qui serait resté au pays? Attentat de Québec, 2 minutes ont suffi au meurtrier. Les images ne seront pas diffusées, a tranché le juge François Huotte. Syrie, une riposte promise aux effets incertains. La situation actuelle ressemble à ce qui prévalait il y a un an. Culture, la bataille des quotas, on voit une photo de Sophie Lorrain. Les mesures incitatives n'ont pas amélioré la parité entre les hommes et les femmes dans le milieu des arts, la chronique d'Odile Tremblay. Cannabis, la SAQ a une préférence pour le pot québécois. Et télévision, les jeunes sont fidèles au poste, quoique moins nombreux. Le scénario semble presque usé, calqué jusqu'à maintenant sur celui d'avril 2017, il y a un an presque jour pour jour. Une attaque chimique attribuée rapidement au régime du président syrien Bachar al-Assad par ses détracteurs. Une escalade verbale s'ensuit entre alliés du régime et puissances de l'autre camp. Puis un blocage au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie opposant son veto dans le tumulte d'un dialogue de sourds pour la 12e fois. La riposte occidentale aux attaques chimiques présumées en Syrie serait imminente selon le président américain Donald Trump. Une riposte qui s'annonce vaine, et son impact limité, selon plusieurs analystes, dont le professeur Thomas Junot. Cette frappe à venir pourrait cependant repositionner les États-Unis dans cette guerre qui dure depuis 7 ans, croit quant à lui le politologue Sami Aoun. Tel un déjà-vu, les photos d'enfants asphyxiés et de civils en fuite dans un nuage réputé toxique se répètent. Que les attaques s'avèrent ultérieurement confirmées ou non, ce nouveau cortège funèbre remet de la pression sur le président américain. Québec solidaire, Vincent Marissal avoue avoir menti. Le candidat souhaite tourner la page sur ses premiers pas en politique. Qu'on passe à autre chose. Voilà ce qu'a suggéré le candidat solidaire Vincent Marissal mercredi soir, quelques instants après qu'il eut reconnu avoir menti au sujet des discussions qu'il a eues avec le Parti libéral du Canada. Lors de l'annonce de sa candidature le 3 avril, Vincent Marissal avait nié avoir discuté d'une éventuelle candidature avec le PLC. Sauf que son discours a ensuite évolué pour faire place à l'aveu de contact avec le bureau du premier ministre Justin Trudeau, puis à la reconnaissance qu'une circonscription, Outremont, avait été envisagée afin qu'il y présente sa candidature. Mercredi soir, avant de plonger dans un bain de foule avec quelques 800 militants solidaires, le candidat Marissal a bouclé la boucle. « Je comprends que mon début n'a pas été très bon, je le reconnais », a-t-il déclaré. « Mes mots étaient mal choisis, c'était des faux fuyants ». Et je suis ici notamment pour rencontrer les gens de Québec solidaire, pour leur parler et leur faire sentir que je suis totalement avec eux. Violence sexuelle des étudiants exaspérés devant l'inaction des universités McGill et Concordia. Des centaines d'étudiants se sont rassemblés sur le campus de l'Université McGill mercredi pour critiquer les ratés de cet établissement et ceux de l'Université Concordia dans la gestion de plaintes pour violences sexuelles. Manifestant haut et fort leur exaspération, les étudiants ont particulièrement fustigé la direction de McGill, l'assommant de reconnaître le problème, d'élaborer une vraie politique et de tenir une enquête indépendante sur les allégations d'agression sexuelle visant des professeurs de la Faculté des arts. Dans un ultimatum, ils ont demandé aux dirigeants de l'université de s'exécuter d'ici lundi, sans quoi ils s'adresseront directement à la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David. Le chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, n'écarte pas la possibilité de se présenter à l'élection partielle d'Outremont lorsque Thomas Mulcair aura quitté son siège. « Je suis toujours ouvert à écouter l'avis des gens quand une élection partielle s'ouvre et je considérerai toujours toutes les options qui s'offrent à moi », a affirmé M. Singh au sujet de l'élection qui sera déclenchée lorsque son prédécesseur, M. Mulcair, prendra sa retraite cet été. Astronomie. Lundi prochain, le 16 avril, la NASA lancera TESS, T-E-S-S, un petit télescope spatial qui amorcera une chasse aux exoplanètes qui sont présentes près de nous. Il sera ainsi plus facile de les étudier et de savoir si elles hébergent la vie. Contrairement au télescope Kepler, qui a posé son regard pendant 4 ans en continu sur une seule et même petite portion du ciel, TESS observera l'ensemble du ciel bande par bande, consacrant 27 jours d'observation à chaque bande de ciel, et ainsi de suite, pendant 2 ans. Montréal a approuvé mercredi matin l'octroi du groupe de 60 millions au groupe, l'octroi du contrat de 60 millions au groupe Jazz Air Inc. pour la réfection des paddocks de Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. La facture est élevée, mais elle est justifiée, estime la responsable des grands parcs de l'administration, le responsable, M. Luc Ferrandez, qui a qualifié l'événement de grande fête populaire à Montréal. L'élu a fait valoir que le Grand Prix de F1 avait un impact positif important pour la métropole et que près de la moitié des spectateurs qui venaient assister à la course chaque année provenaient de la région montréalaise. La SAQ, la SAC, achètera le tiers de son cannabis au Québec. La future Société québécoise du cannabis, SQC, comptera 58 tonnes de cannabis dans ses réserves dès sa première année d'activité. La Société des alcools du Québec a confirmé mercredi s'être entendue avec 6 producteurs de marijuana qui approvisionneront la SQC une fois la drogue légalisée. L'unique producteur québécois de marijuana médicale à l'heure actuelle, l'entreprise Hydro-Poticaire en Outaouais, sera le plus important fournisseur de la Société d'État québécoise, 20 000 kilos pour la première année suivant la légalisation de la marijuana à des fins récréatives. Et la chaîne de cinéma Cinéplex a annoncé mercredi qu'elle licencierait un certain nombre d'employés à temps plein. Une porte-parole de l'entreprise torontoise, Sarah Van Lange, a refusé de dire exactement combien d'emplois seraient supprimés, mais elle a affirmé que les licenciements toucheraient moins de 100 employés. Et le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a annoncé mercredi un accord avec un consortium indien pour la construction d'une énorme raffinerie dans l'ouest de l'Inde pour un coût estimé à 44 milliards US. Restez avec nous, la suite de l'émission dans quelques minutes.
Drop down on the side, I wish those things could come back once more.
Merci Hélène d'avoir suggéré Stevie Wonder et sa chanson I Wish.
Ça me fait plaisir et j'espère que j'ai fait plaisir à nos auditeurs avec cet incontournable de Stevie Wonder. Alors, allons-y avec la une du Journal de Montréal. Je veux devenir policière. La première étudiante en technique policière qui porte le voile au Québec est déterminée à exercer son futur métier avec son hijab. Elle est prête à faire face au débat entourant le port de signes religieux chez les agents. Une photo du regretté Jacques Daou, vante de Rona. Daou voulait prouver qu'il n'en savait rien. Et à ce propos, les chroniques de José Legault et de Michel Girard, la chronique de José Legault, un testament troublant, et celle de Michel Girard, Sabia, le responsable. Déterminée à être policière et à conserver son voile, elle est la première étudiante en technique policière à le porter au Québec. « Je veux devenir policière. Si je dois aller sur la Lune pour y arriver, je le ferai », affirme avec aplomb Sondos Lanrari. L'étudiante de 17 ans est entrée cet automne en technique policière au Collège Hanusik à Montréal. Le débat sur le port de signes religieux dans la police a refait surface la semaine dernière. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a répété hier être ouverte à l'idée. Pour plusieurs figures publiques, cet enjeu n'est toutefois pas urgent car il ne touche aucun policier en poste. Sondos Lanrari est la seule au Québec dans cette situation, selon ce que le journal a confirmé auprès des 12 cégeps qui offrent le programme de technique policière. À ceux qui y voient un symbole de soumission de la femme, elle répond « Ce n'est pas ça. Il y a différentes façons d'être libre. Pour certaines, c'est de porter le moins de vêtements possible. Pour d'autres, le plus possible. » Pas de théâtre pour une handicapée. Une étudiante du cégep de Trois-Rivières ne pourra pas avoir son diplôme parce qu'on la refuse dans un cours. Une femme de 23 ans atteinte de paralysie cérébrale qui donne des conférences depuis des années ne pourra pas obtenir son diplôme en arts, lettres et communication en raison de son handicap. Annie-Kim Charret-Talbot, ou Talbot, a commencé à l'âge de 6 ans à se promener dans des classes pour parler de sa paralysie cérébrale. Au fil du temps, elle a donné des conférences dans des écoles, des résidences de personnes âgées, a co-animé un gala Méritas et participé à des capsules vidéo. Malgré sa facilité à parler devant des groupes, le cégep de Trois-Rivières ne la considère pas comme apte à suivre le cours obligatoire de théâtre québécois dans le cadre de son DEC en arts et lettres. Elle ne pourra donc pas obtenir son diplôme. Selon elle, la coordonnatrice des services adaptés du cégep lui a dit qu'elle ne serait pas suffisamment capable de bouger ou de projeter sa voix pour en atteindre les compétences. Ce cours est obligatoire à la réussite de son programme. C'est vraiment l'atteinte à mon intégrité physique qui m'a fait de la peine. Qu'on me refuse à cause de ma différence, de mon handicap, j'ai eu de la difficulté à accepter qu'en 2018, on puisse mal juger la différence autant que ça, dit-elle. Elle admet qu'elle ne savait pas si elle obtiendrait un diplôme car elle doit suivre un cours par session en raison de ses limitations. Maintenant, toutefois, ça ne fait plus partie des possibilités. Elle affirme qu'on a clairement refusé qu'elle suive le cours. La comédienne d'Unité 9, Myriam Côté, a sauvé de la noyade un Québécois lors d'un récent voyage à Puerto Plata en République dominicaine. Le 30 mars dernier, Myriam Côté, qui joue la dure à cuire, Avril Robertson, dans Unité 9, prenait un pina colada avec sa mère et d'autres membres de sa famille au bord de la mer lorsqu'elle entendit un homme crier au moins 8 fois « à l'aide » en 10 secondes. La plage n'était alors pas surveillée. La mer était houleuse et le drapeau rouge levé. Signe que la baignade était risquée. La comédienne a alors remarqué, à une centaine de pieds de la rive, un homme très agité. Lorsqu'elle a vu l'homme remonter et redescendre dans le fond de l'eau, elle a vite compris qu'il était en train de se noyer. Un autre homme essayait de l'aider, mais sans succès. Myriam Côté, qui a déjà suivi une formation de sauveteuse, s'est mise à courir dans la mer. Une minute et demie plus tard, l'ancienne sauveteuse réussissait à ramener l'homme sur la rive et à appeler les paramédics de la place. Lucien Blais, 73 ans, un résident de Val-d'Or, a été hospitalisé en République dominicaine pendant 2 jours et demi. Il a souffert d'un œdème pulmonaire en raison de la grande quantité d'eau salée avalée. Sur le coup, il n'a pas reconnu la comédienne, mais son épouse, oui. À ses yeux, Myriam Côté lui a sauvé la vie. C'est une fille que je n'oublierai jamais. Si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Myriam Côté a versé plusieurs larmes lorsqu'elle a revu Lucien Blais à l'hôtel de vacances. Une connexion vient de se créer pour la vie. Je ne l'oublierai jamais, moi non plus, a lancé la comédienne. La chronique de José Legault intitulée « Une vente irresponsable ». Il y a des testaments politiques plus troublants que d'autres. Il en va ainsi d'un texte rédigé par l'ex-ministre libéral de l'économie Jacques Daou, rédigé avant son décès l'an dernier. Obtenu par notre bureau d'enquête, on y lit le récit d'un homme persuadé que le bureau de Philippe Couillard l'aurait sacrifié sur l'autel de la vente de Rona au géant américain Lowe's en 2016. Opposé à la perte de ce fleuron québécois, M. Daou y avance qu'il aurait refusé de mentir en prétendant qu'il approuvait la vente. Devenu alors un problème pour le premier ministre, il dit avoir été mis de côté jusqu'à son ultime démission. Sur le plan humain, ce texte de M. Daou témoigne du fort prix payé par ceux et celles qui ont le malheur de se trouver au centre de jeux de pouvoir, qu'ils ne contrôlent pas. Sur le plan politique, cela semble avoir été sa manière de documenter son opposition à la vente de Rona. Mais aussi sa version des jeux de coulisses derrière une vente somme toute irresponsable au point qu'on ne se l'explique toujours pas. Le bureau du premier ministre a-t-il ou non tiré les ficelles menant à la perte d'une entreprise majeure pour l'économie québécoise? Pourquoi Investissement Québec s'est-il départi de ses actions dans Rona, alors qu'elles auraient pu empêcher une prise de contrôle étrangère? Et la Caisse de dépôt et placement du Québec aurait-elle joué un rôle de facilitateur en rendant aussi possible cette transaction? Ces questions ne sont pas banales. Primo, parce qu'elles n'ont toujours pas eu de réponse claire. Deuxio, parce qu'elles soulèvent une inquiétude sérieuse quant au laisser-faire, voire même parfois à la participation active des grands décideurs politiques et économiques actuels du Québec dans la perte de certains fleurons québécois comme Rona. Y a-t-il un premier ministre dans la salle? Le pape François a béni hier dans la cité du Vatican une monoplace de formule électrique selon des photographies dévoilées par le Saint-Siège. La bénédiction matinale s'est déroulée juste devant la résidence où vit le pape en présence d'une cinquantaine de personnes. Une course urbaine de formule E sera organisée pour la toute première fois à Rome samedi sur un tracé de 2,8 km dessiné dans le quartier sud de l'Eure. L'auteur du massacre dans une école de Parkland qui a fait 17 morts et 17 blessés veut faire don de son héritage aux victimes et proches de la tuerie, ont assuré hier ses avocats devant un tribunal de Floride. Nicholas Cruz ne veut pas de ses fonds, quelle que soit la somme qui lui revienne, a indiqué son avocate, évoquant l'héritage à venir du jeune homme de 19 ans dont la mère est morte en novembre. Il voudra que cet argent soit donné à une organisation choisie par les familles des victimes, a-t-elle ajouté. Alors que le tireur de 19 ans comparaissait lors d'une audience destinée à déterminer s'il est en mesure de payer sa défense, alors qu'il bénéficie actuellement de l'aide juridictionnelle. L'industrie touristique du Mexique s'inquiète du regain de violence qui règne à Cancun depuis les dernières semaines. Au moins 14 personnes sont mortes en moins de 36 heures la semaine dernière dans des règlements de compte. Cela représente un record d'homicides en si peu de temps dans le pays. Ces meurtres sont liés à la guerre de la drogue qui empoisonne la vie des Mexicains depuis des années. Ces règlements de compte inquiètent grandement l'industrie du tourisme du pays qui craint que certaines personnes n'osent plus venir en vacances. Plus de 100 personnes ont été abattues à Cancun depuis le début de l'année. Et pour terminer, la Suède a inauguré hier une route électrifiée dotée d'un rail à conduction, la première au monde selon ses promoteurs, qui permet de recharger la batterie du véhicule en mouvement. Long de 2 km, ce tronçon test, baptisé E-Road Arlanda, se situe sur une voie du réseau secondaire reliant un terminal fret, de l'aéroport international de Stockholm Arlanda et un centre de logistique. L'énergie est transférée grâce à un bras amovible situé sous le véhicule qui s'abaisse et entre en contact avec le rail situé au milieu de la voie de circulation. En cas d'accident ou de dépassement, le contact entre le détecteur et le rail se lève automatiquement. Dans un premier temps, seuls des camions tout électriques des services postaux de Poste Nord seront équipés pour l'utiliser. Lee Road, Arlanda.
Oh non, jamais! Oh non, jamais, jamais! Même tout écartillé dans Paris, oh, sept péchés, même en m'épivardant. Même en m'épivardant dans les quatre coins du camp, comme une boule de poule. Confesse de toi, jamais. Oh non, oh non, oh non, jamais, jamais. Never, 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 never. Je n'oublierai Marie, la forêt et la platine. Oh non. What? Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, jamais, jamais, même tout écartillé dans Paris, aux sept péchés, même en m'épivardant. Je regarde en arrière.
Oh boy, tout est quartier, Robert Charlebois.
Les journaux régionaux dans le quotidien Pascal Girard, mission accomplie pour les clowns thérapeutiques, une belle photo de tout plein de personnages qui portent le nez de clown rouge. L'organisme Clown Thérapeutique Saguenay a largement dépassé son objectif de 35 000 $ mercredi soir en récoltant pas moins de 42 866 $. La soirée bénéfice se tenait au Calypso de Jonquière. 9 personnalités impliquées dans la campagne de financement nommée Diagnostic avaient été présentées aux médias mardi. Chaque personne devait vivre avec une mobilité réduite jusqu'à la soirée bénéfice, soit des plâtres, fauteuils roulants ou colliers cervicaux notamment. Clown Thérapeutique Saguenay vient en aide aux personnes dans les hôpitaux et CHSLD de la région. La mission de l'organisme est notamment de briser la solitude et l'isolement pour ceux vivant dans la souffrance et la maladie. Dans Le Soleil, Geneviève Bouchard, Zoé Pelchat, récompensée à Cannes. L'auteure et réalisatrice québécoise Zoé Pelchat reviendra de Cannes avec un prix dans ses bagages alors que sa web-série Domino a été sacrée meilleure série digitale au Festival international Cannes Série. Jointe après le gala de clôture du nouveau festival, la Montréalaise ne cachait pas sa joie. « Je suis vraiment reconnaissante. Je suis contente d'être ici avec des gens que j'aime. On a tellement travaillé fort. C'est la cerise sur le gâteau. » Déjà juste d'avoir pu faire ce projet-là avec des gens aussi talentueux, avec des acteurs et des techniciens aussi talentueux, pour moi, c'était une immense chance. Et là, de gagner parce qu'on a mis notre cœur, parce que c'est senti, c'est incroyable, a décrit Zoé Pelchat, soulignant que ce sont justement les qualités humaines de la série qui ont retenu l'attention du jury. Domino, ce n'est pas une web-série qui est impressionnante techniquement, reprend-elle. Mais c'est un projet d'amour, c'est un projet de cœur, c'est un projet de trip, c'est ça qui les a touchés avant tout. Diffusé par TV5, Domino suit en 5 épisodes d'une dizaine de minutes une brochette de personnages plus ou moins marginaux, évoluant dans le sud-ouest de Montréal. À Cannes, Domino était en compétition contre 9 séries venues de 6 pays, et pour vrai, les autres web-séries étaient incroyables, observe Zoé Pelchat. La scénariste et réalisatrice décrit son expérience à Cannes comme super inspirante. La suite des choses se résume pour Zoé Pelchat à un mot répété 3 fois, « travail, travail, travail », confirme la jeune femme qui mène de front plusieurs projets de fiction et qui ne compte pas s'asseoir une minute sur ses lauriers. Dans La Tribune, sous la plume de Tommy Brochu, remporter la loto de la vie grâce aux cellules souches. En 2014, Nadie Eva Aubin se fait diagnostiquer une leucémie. Il ne lui reste qu'une chance de s'en sortir, elle doit recevoir une greffe de cellules souches. Le hic, c'est que le code génétique de Nadie Eva Aubin doit être semblable à celui du donneur. Ses frères, qui ont 25 % de chances de pouvoir lui donner leurs cellules, sont incompatibles. Extrêmement chanceuse, Mme Aubin gagne néanmoins à la loto de la vie, selon ses dires, et trouve un donneur outre-mer. Le don de cet inconnu qui a un code génétique semblable à celui de Mme Aubin lui a sauvé la vie. Quand je l'ai su, j'ai acheté une bouteille de champagne. Même si les chances de réussite étaient estimées à 60 %, c'était l'euphorie, a-t-elle exprimé après avoir donné une conférence aux élèves du séminaire de Sherbrooke, volet collégial. Après avoir mis le système immunitaire sanguin du patient à zéro, le processus de réception des nouvelles cellules n'est pas trop compliqué. Quand on reçoit le greffon, c'est comme si l'on se faisait donner du sang, indique Mme Aubin. Quand les cellules entrent dans le corps, elles savent où se placer et elles savent comment redémarrer la machine. Par contre, 4 ans après la greffe, Mme Aubin n'est toujours pas aussi en forme qu'avant son cancer. Je ne sais pas si je vais revenir à 100 % un jour. C'est une nouvelle façon de vivre. Je n'aspire pas à avoir l'énergie que j'avais avant. C'est une façon différente de la gérer. Je suis fonctionnelle et j'ai recommencé à travailler à temps partiel. J'ai le système immunitaire d'un enfant de 3 ans, analyse celle qui enseigne dans une école primaire. Dans le droit, Sylvie Branch, la Ville d'Ottawa donne le mandat aux employés municipaux d'étudier les options qui permettraient de limiter le nombre d'entreprises de prêts sur salaire sur son territoire. Ces magasins sont situés dans les quartiers qui ont un défi avec la pauvreté. C'est vraiment un problème pour certains quartiers d'avoir 10-15 magasins de prêts sur salaire sur la même rue. Leur taux d'intérêt est incroyable et les personnes qui sont pauvres utilisent ces commerces et ce n'est pas bon pour leur situation, estime le maire Jim Watson. En raison des droits acquis, la ville n'a pas le pouvoir de forcer les commerces qui sont déjà en activité de fermer boutique. Les employés municipaux tenteront de trouver un moyen de limiter leur prolifération, que ce soit par une mesure permettant de restreindre le nombre de commerces de prêts sur salaire ou de limiter leur concentration. À l'heure actuelle, 55 établissements comme les Money Mart, Cash Money, Western Union et compagnie ont pignon sur les rues de la ville. Ils se retrouvent en majorité sur le boulevard Saint-Joseph, le chemin Montréal et la rue Banque ou Bank. Et dans le Nouvelliste, on parle beaucoup du Festival Western de Saint-Tite, mais aussi des rodéos. Le ministre de l'Agriculture, Laurent Lessard, dont le ministère est en charge de l'application de la loi sur le bien-être animal, est d'avis que les rodéos peuvent respecter la loi sur le bien-être animal votée en 2015. On pense que les rodéos au Québec et ailleurs, dans les meilleures pratiques, peuvent respecter la loi sur le bien-être animal, a-t-il déclaré en mêlée de presse à Québec, réagissant à la publication du rapport du comité d'observateurs mis en place par le professeur de droit Alain Roy, afin d'évaluer les légalités, la légalité des rodéos de Montréal et Saint-Tite. Le ministre dit attendre les conclusions du comité de travail mis en place en collaboration avec le MAPAC, le Festival Western et les représentants d'Alain Roy, afin de recevoir un protocole d'encadrement des meilleures pratiques de rodéo au nom du bien-être animal. Je veux ce protocole d'encadrement-là. On a rencontré le Festival de Saint-Tite récemment. Je m'attends à ce qu'il y ait le dépôt d'un protocole et on va en faire l'évaluation. Et pour terminer, on retourne dans le droit, section sport. La deuxième journée de rencontre du propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, avec des détenteurs d'abonnements, a permis d'apprendre que celui-ci entretient de sérieux doutes quant à la viabilité du projet de revitalisation des plaines Le Breton, qui comprend la construction d'un nouvel aréna pour son équipe. Melnyk en avait déjà parlé lors de sa controversée sortie de décembre dernier, à la veille de la classique 100 de la LNH au parc Lansdowne, quand il avait aussi évoqué la possibilité de déménager l'équipe dans une autre ville si les assistances devenaient un désastre. Vous écoutez le quotidien des quotidiens à Canal M de Vues et Voix. Restez avec nous. Après la chanson, il y aura pour vous la section culturelle, actualité culturelle, et puis les sujets libres. Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée, qui vous dit merci d'être là. Les troupeaux.
that's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette
Julien Clerc, 10 mélodies.
Les 100 meilleurs restaurants du Canada, les tables du Québec rayonnent. Le guide Canada's 100 Best, qui recense les 100 meilleurs restaurants du Canada, a fait une belle place aux tables québécoises dans son palmarès dévoilé hier. Pas moins de 27 restaurateurs de la province se sont taillés une place dans le top 100, incluant le Toqué et Joe Beef, qui se sont fait ravir de peu la première place par le restaurant Allo, A-L-O, situé à Toronto. Voici donc les restaurants québécois qui sont parvenus à atteindre le top 100. Numéro 2, Toqué, le célèbre restaurant montréalais de Normand Laprise, encensé pour sa cuisine des produits, continue de cumuler les honneurs. Canada's 100 Best a prisé le Toqué pour sa façon de mettre en vedette ses ingrédients judicieusement sélectionnés dans ses plats. Numéro 3, Joe Beef, un autre habitué des palmarès, le restaurant montréalais Joe Beef a été reconnu tout autant pour sa cuisine à la fois contemporaine et ancienne que son personnel et son décor bric-à-brac. Numéro 6, Montréal Plaza, le restaurant de la rue Saint-Hubert, à Montréal, a charmé Canada's 100 Best grâce à la cuisine exubérante et originale préparée sous la supervision de Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson, deux anciens du Toqué. Numéro 8, le vin papillon. Créé par les propriétaires du Joe Beef, le vin papillon diffère toutefois de son grand frère en offrant des plats originaux, cédant toute la place aux légumes. Numéro 13. Maison publique, ce pub gastronomique montréalais a retenu l'attention à la fois pour sa cuisine réconfortante et son décor. Numéro 17 de ce palmarès, Nora Gray. Situé à Montréal, le Nora Gray propose une cuisine italienne. Numéro 24, John E. C'est ça? Oui, c'est bien cela, ou John 1, mais c'est plutôt John E. Situé à Montréal, le John E se spécialise dans la cuisine japonaise. Numéro 26, Initial, le premier établissement québécois hors Montréal de la liste. Le restaurant Initial se spécialise en haute cuisine à Québec. Numéro 27, Cabane à sucre du Pic de Cochon. Située à Mirabel, la cabane du chef Martin Picard propose un menu de cabane réinventé. Numéro 31 de ce palmarès, le Mousseau. Situé à Montréal, le Mousseau se spécialise dans la cuisine d'ingrédients canadiens. Numéro 33, dis-je bien, Liverpool House, situé à Montréal. Le restaurant a déjà reçu le président Barack Obama et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Numéro 37, L'Express, situé à Montréal. Le restaurant propose des classiques de bistrot. Numéro 47, L'Atelier de Joël Robuchon, situé au Casino de Montréal. L'atelier est dirigé par l'étoile française Joël Robuchon. 14 autres restaurants ont trouvé leur place dans le reste du top 100, alors je vous les nomme. De 51 à 98, chez Saint-Pierre-au-Bic, Bouillon-Bilk à Montréal, Maison-Boulu à Montréal, Park à Westmount, Impasto Montréal, le Club Chasse et Pêche Montréal, Marconi à Montréal, Damas, Outremont, Batuto, Québec, Au Pied de Cochon Montréal, Milos Montréal, Da Emma à Montréal, Légende Québec et Les Fougères Chelsea. Un dossier de notre collaborateur Samuel Larochelle, c'est dans la presse, section pause, tester à la maison. Recevoir une boîte de produits en exclusivité plusieurs mois avant leur arrivée sur le marché, faire des tests d'appréciation dans le confort de sa maison, noter ses impressions sans se censurer, tel est le rôle des goûteurs à domicile, des dizaines de bénévoles qui viennent en aide à plusieurs entreprises québécoises. Alors, le verdict des goûteurs. Depuis un an, 8 entreprises agroalimentaires profitent du projet des goûteurs à domicile orchestré par Québec International. 3 d'entre eux expliquent les hauts et les bas du concept. Gabriel Morissette. Chaque dégustation est un événement pour la jeune femme. C'est un happening. J'ouvre la boîte, je découvre de nouvelles affaires, les produits sont offerts en quantité très généreuse, explique-t-elle. Le sondage est vraiment facile et pas très long à remplir. Et notre opinion aide à développer le marché alimentaire de façon efficace. Elle ne s'est d'ailleurs pas gênée pour tout dire, tout ce qu'elle pensait. On nous demande d'être le plus honnête possible, alors on explique ce qui pourrait être amélioré. Ce qui est trop sucré, trop salé, excellent ou vraiment dégoûtant. On peut s'exprimer sans sentir de jugement. Philippe Lafoucrière, ami de goûteur à domicile, Philippe Lafoucrière et sa conjointe ont d'abord profité indirectement de l'expérience en découvrant des produits qu'ils ne trouvaient pas encore sur les étalages des magasins. Séduits par le projet, ils ont communiqué avec l'organisation pour y participer officiellement en couple. Pour nous, c'est très intéressant car on peut entrevoir l'alimentation dans le futur au Québec, souligne M. Lafoucrière. On est des épicuriens. On cherche toujours des nouveaux goûts et de nouvelles sensations culinaires. Alors, cette expérience nous permet d'avoir des surprises. Inévitablement, les surprises peuvent être positives ou négatives. La semaine dernière, parmi 3 échantillons d'un produit, on n'en a aimé aucun. Alors là, vraiment pas, s'exclame-t-il. Après 2, j'ai dû arrêter, sinon ça aurait gâché ma journée. Parfois, certains produits ne nous correspondent pas du tout, mais ça ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Un produit santé très peu sucré ou un autre trop sucré ne plaira pas forcément à tous. Dominique Latouche, conscient qu'il a souvent l'habitude d'acheter les mêmes produits sans sortir de sa zone de confort, il a été séduit par le concept des goûteurs à domicile. « Je l'aime, j'aime vraiment beaucoup ça », dit-il. On fait des tests et plusieurs découvertes intéressantes. Après 3 expériences de dégustation réalisées de façon bénévole, il se dit prêt à recommencer n'importe quand. « Ça ne me dérange pas de donner mon temps pour ça. » Et on le comprend. C'était trop fort. En tout cas, il fallait que je le dise. C'est comme une routine, une série de gestes simples qui exigent une seule chose de lui, sa franchise. Je ne me garde pas de petite gêne dans mes commentaires, précise-t-il. Je dis tout à 100%. C'est ça le but. Si je trouve un emballage trop neutre ou un produit trop épicé, je l'explique. Mode d'emploi. Dès la réception du colis, les participants disposent de 72 heures pour réaliser une série d'étapes précieuses. 1. Départager les produits qui doivent être réfrigérés et ceux qu'ils peuvent garder à température ambiante. 2. Analyser l'emballage de chaque produit pour déterminer s'il semble appétissant et s'il donne envie de l'acheter. 3. Suivre les instructions sur la façon de tester chaque produit, sa préparation ou sa cuisson. 4. Ouvrir le produit, noter l'odeur et l'allure générale. 5. Donner leur impression sur les valeurs nutritives et les ingrédients. 6. Goûter. 7. Noter ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. 8. Remplir le questionnaire sur leurs habitudes d'achat, entre parenthèses, marque, budget. 9. Indiquer s'ils pensent acheter ces nouveaux produits à l'avenir et s'ils les recommanderaient. 10. Envoyer le questionnaire par l'Internet. Les gens intéressés à devenir goûteurs à domicile peuvent poser leur candidature sur le site web d'INBE. D-INBE. je termine avec « Combattre la bullshit nutritionnelle ». Et je me suis rendu compte que j'avais inversé les segments. Donc, après la chanson, je vais vous parler culture. Combattre la bullshit nutritionnelle, bien manger peut être vraiment simple, affirme Bernard Lavallée, connu comme le nutritionniste urbain. Dans son nouveau livre « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit », il donne des armes pour lutter contre ce qu'il appelle la bullshit nutritionnelle. Entrevue avec un nutritionniste engagé, alors je vais vous donner quelques bribes du texte de Marie Allard. Première question, l'industrie des aliments fonctionnels et des produits de santé naturelle, celle des vitamines et suppléments, a généré 11,3 milliards de dollars au Canada en 2011. Rapportez-vous dans le livre. C'est la preuve qu'il y a un problème dans notre façon de nous alimenter. Réponse, c'est la preuve que c'est une industrie comme une autre. Elle est là pour faire de l'argent, alors que souvent, les gens vont croire que l'industrie des produits de santé naturelle est là pour notre bien. Je ne dis pas que tous les produits de santé naturelle sont inutiles, mais beaucoup le sont. C'est le cas des suppléments d'antioxydants. On ne voit pas de bénéfices sur la santé de ceux qui en consomment. Dans certaines études, on a même vu une augmentation des risques de cancer chez ceux qui en prennent. Pourtant, ça reste des suppléments très populaires, parce que les gens ont l'impression que les antioxydants sont la panacée. Non, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Vous mentionnez que de 300 à 500 entreprises comme Nestlé, Pepsi-Cola, Unilever, Kraft Heinz contrôlent 70 % des choix alimentaires dans le monde, en citant le cabinet A.T. Kearney. C'est beaucoup. Oui, la majorité de l'offre est contrôlée par une poignée d'entreprises et la majorité de l'offre, ce sont des produits ultra transformés qui n'ont pas une valeur nutritionnelle intéressante. Ça existe des produits intéressants, mais ils sont vraiment plutôt rares. Alors, une autre question. Qu'espérez-vous avec votre livre? J'espère que les gens seront capables de faire le ménage dans la mer d'informations et de désinformations en nutrition. Quand on entend une nouvelle en nutrition dans 99,9 % des cas, ça ne devrait pas avoir d'impact sur notre alimentation. Il faut comprendre que bien manger, ça peut être vraiment, vraiment simple. Les conseils appuyés par la science, ça reste de manger le moins transformé possible, de manger en majorité des végétaux et de boire surtout de l'eau.
1954, un 12 avril, que Bill Haley et The Comet enregistraient cette chanson. On a pensé que nous nous ferions plaisir.
Pas juste nous. Nous vous ferions plaisir aussi, Mathieu. Hein? Ouais. Alors, tout est dans le « nous ». Allons-y donc avec les actualités culturelles, artistiques. Ça fait jaser, c'est dans la presse. Lepage et la flûte enchantée, on en parle aussi ailleurs. La flûte enchantée façon Robert Lepage sur la pièce maîtresse du 8e Festival d'opéra de Québec. L'homme de théâtre est visiblement heureux de renouer avec l'événement où il a déjà présenté ses mises en scène de « Tempest, Le Rossignol et autres fables, La damnation de Faust et L'amour de loin. C'est toujours une grande fête musicale, scénographique et poétique, a-t-il commenté hier au sujet de ses collaborations. Grâce au scénographe écossais Jamie Harrison, il rendra hommage aux illusions de théâtre du 18e et du 19e siècle. Robert Lepage s'est fait offrir plusieurs fois de monter La Flûte enchantée, l'un des opéras les plus joués dans le monde. « Mais je savais que c'était un projet que j'aimerais faire de façon intime à la maison », dit-il. L'opéra créé à Québec est produit en association avec le Metropolitan Opera de New York. La Flûte enchantée sera présentée le 31 juillet et les 2, 4, 6 août au Grand Théâtre de Québec. Une version remasterisée de Boomtown Café du groupe Abitibi, Abitibi écrit A-B-B-I-T-T-I-B-B-I, sera en vente le 11 mai. Enregistré en 1980 et sorti en vinyle en 1981, le tout premier disque du groupe de Richard Desjardins était épuisé depuis longtemps. La nouvelle version de ce disque, qui comporte des classiques du répertoire de Desjardins, Un beau grand slow, Il va toujours y avoir, Le chant du baume, a été édité par le preneur de son Bernard Grenon à partir des bandes maîtresses originales. La pochette a été entièrement redessinée et un texte de Desjardins racontera les conditions de création de l'album et l'histoire du groupe. Boomtown Café sera offert en CD, en version numérique et en vinyle dans une édition limitée de 1000 exemplaires. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, annonce aujourd'hui, à 5 heures, heure de Montréal, les titres qu'il a retenus dans la sélection officielle du plus prestigieux festival de cinéma du monde. Les films québécois risquent de se faire plutôt rares. Une rumeur persistante indique que « The Death and Life of John F. Donovan », premier film en anglais de Xavier Dolan, sera lancé à Toronto plutôt que sur la croisette. Selon nos sources, La chute de l'Empire américain, le nouveau film de Denis Arcand, fera lui aussi l'impasse sur le festival. La post-production de The Hummingbird Project, le film que Kim Nguyen a tourné, ne sera pas terminée avant le mois de juillet. La disparition des Lucioles, nouveau film de Sébastien Pilote qui avait réalisé le démantèlement, pourrait cependant aboutir à la quinzaine des réalisateurs dont la sélection sera dévoilée mardi prochain. Une chose est sûre, aucun film produit par Netflix ne sera lancé sur la croisette, le diffuseur ayant confirmé son retrait hier. L'affiche, conçue autour d'une photo de Pierrot le Fou, mettant en vedette de Jean-Paul Belmondo, de Jean-Luc Godard, a été dévoilée hier. Le Salon du livre de Montréal déménagera au Palais des congrès en 2019, de plus en plus à l'étroit à la Place Bonaventure. Le Salon du livre de Montréal annonçait au milieu de l'édition québécoise que l'événement allait déménager au Palais des congrès à l'automne 2018, a appris La Presse hier. Jointe au téléphone, la présidente du conseil d'administration du Salon du livre, Gilda Routy, a confirmé la nouvelle. « Cette décision est le résultat d'une grande réflexion que nous menons depuis environ un an et demi », dit-elle. Nous avons eu des discussions avec les éditeurs avec qui nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait changer d'air. Un des objectifs de ce déménagement est de réussir à accueillir plus d'écoliers. En ce moment, nous pouvons en recevoir au maximum 18 000 et chaque année, nous devons refuser des demandes, dit Gilda Routy, qui estime que cette réorganisation sera un très grand défi. C'est un espace immense, sans colonnes, lumineux. La capacité est plus grande, mais l'espace est tellement différent qu'il nous demandera aussi un grand travail de créativité pour l'aménager. Et cette nouvelle arrive quelques jours après l'annonce du départ de la directrice générale du Salon depuis 32 ans, Francine Bois. On peut dire que ce départ est dans la suite de notre réflexion, répond Gilles Darroutis quand on lui pose la question. La décision de déménager semble bien accueillie par le milieu de l'édition. Et parlant du Salon du livre, Caroline Chouinard, prête pour le grand saut, c'est après avoir été approchée pour participer à un recueil sur l'expérience d'être mère de jumelles que Caroline Chouinard s'est lancée pour la première fois dans l'écriture. Le livre n'a jamais été publié, elle ne sait trop pourquoi, mais la graine était plantée. « Je n'avais jamais écrit auparavant, mais j'ai compris que j'aimais ça. Ça a finalement été plus facile que je le pensais. » Invitée d'honneur du Salon international du livre de Québec mercredi, la Lévisienne, mère de trois filles aujourd'hui adolescentes, se sent maintenant prête à en faire une occupation à temps plein. Massothérapeute de formation et propriétaire d'une clinique depuis 1996, elle sent que le grand saut approche. « J'aime faire du bien aux autres, les soulager. J'ai toujours eu ça en moi, mais l'écriture est aussi une passion. Je suis en train de délaisser mon premier métier pour m'y consacrer à 100 %, explique-t-elle. Et le directeur artistique du Théâtre Denise Pelletier, Claude Poisson, s'est permis le grand écart pour sa saison 2018-2019. Son vœu, dessiner un espace de fiction et de réel où il fera bon s'égarer. L'automne commencera avec la truculence de Rabelais, dont les prouesses et épouvantables digestions du redouté Pantagruel seront mises à la main, de Gabriel Plante et de Philippe Cyr. Novembre verra « Bonjour, la bonjour » de Michel Tremblay, Fanny Alexandre, donc, c'est le film d'Ingmar Bergman qui sera porté sur la scène du Théâtre Denise Pelletier, ainsi que la Société des poètes disparus auquel s'attaquera Sébastien David. Voilà, ça complète le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un agréable jeudi et qui vous invite à rester là puisque l'émission Les Paractualités suit dans quelques minutes. Un grand merci à Mathieu Tessier, au choix musical et à la mise en onde, bien sûr. Bonne journée à vous.